Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante au sujet de l'évangile de Saint Marc. C'est l'étude numéro 2 et nous avons là la guérison d'un paralytique pour commencer. Chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum et l'on apprit qu'il était à la maison. Il s'y rassembla aussitôt tant de monde qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Alors survinrent des gens, lui amena un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule, ils firent une brèche dans le toit, à l'endroit où il se tenait, et par cette ouverture, ils firent descendre le grabat où gisait le paralytique. Voyons leur foi. Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont remis. » Or il y avait là, dans l'assistance, quelques scribes qui pensaient intérieurement, « Mais comment cet homme peut-il parler de la sorte? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Jésus, aussitôt conscient de leur réflexion en son fort intérieur, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Quel est le plus facile de dire à ce paralytique « Tes péchés te sont remis » ou de lui dire « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. L'homme se leva et prenant aussitôt son grabat, il sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous hors d'eux-mêmes, et qu'il glorifiait Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Oui, Capernaum, toi, ville privilégiée, combien de fois n'as-tu pas été visité par celui qui t'a porté le salut? Tu as entendu sa parole, tu as vu ses miracles. Ils t'ont arraché des louanges. Pourquoi n'as-tu pas cru? N'étais-tu pas un peu sa ville? N'a-t-il pas parlé dans tes murs comme parle un envoyé du ciel? Pourquoi n'as-tu pas été la ville qui ne peut être cachée parce qu'elle est située au sommet d'une montagne? Pourquoi n'as-tu pas éclairé le monde de la lumière du royaume? Tu voulais bien la gloire, mais sans opprobre. Tu voulais la vie éternelle du royaume, mais sans mort à toi-même. Les versets 3 et 4 nous montrent la persévérance et l'ingéniosité des amis du paralytique. Ils refusent de se laisser vaincre par les obstacles en apparence les plus insurmontables. C'est qu'il s'agit de véritables amis et que l'homme qu'ils amènent à Jésus est digne d'être aimé en dépit des fautes qu'il a pu commettre, car tout homme d'ailleurs n'est-il pas la même chose ? Jésus s'émeut, il était ému de tant d'amour et de foi. Les autres ont fait ce qu'ils ont pu. il va maintenant faire lui-même ce qui couronnera tous leurs efforts, ce qu'ils attendent du reste de lui, bien sûr, c'est-à-dire la guérison du paralytique, mais beaucoup plus encore. Il commence même par cela, par ce besoin absolument fondamental. Il lui dit, mon enfant, tes péchés te sont remis, tes péchés te sont pardonnés. Jésus peut pardonner comme Dieu pardonne, car il est un avec le Père. En effet, il connaît la pensée du Père en même temps que les sentiments du cœur et les besoins des hommes. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? C'est ce que objectent les scribes. Mais Jésus, précisément, est habité par Dieu le Père. Il parle donc et agit dans la lumière de Dieu qui est celle de l'Esprit Saint. Les scribes sont heurtés dans leur conscience et leur piété de fidèles observateurs de la loi. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ont leurs idées sur l'homme et sur Dieu. Ils crient donc au blasphème quand Jésus remet les péchés. Mais ils ne peuvent l'empêcher de manifester les compassions et la puissance de Dieu en réponse à la foi et à l'attente des amis du paralytique. Celui-ci s'en détourne chez lui par ses propres moyens, guéri dans son corps, son grabat sous le bras, les membres souples et vigoureux maintenant. Mais il s'en va pardonner, surtout pardonner, oui, libéré intérieurement. L'âme est maintenant légère et le cœur gonflé de reconnaissance et de joie. La foule n'a jamais rien vu de pareil. Elle est hors d'elle, comme stupéfaite, et elle se met à louer Dieu. Seigneur, je suis devant toi, Jésus, comme ce paralytique. N'ai-je pas beaucoup à me faire pardonner? Tu connais d'ailleurs mon péché mieux que moi. Ce qui traîne dans mon subconscient et ce qui vient parfois me décourager et me persuader que je suis un vaincu. Oui, pardonne tout cela d'un pardon complet. Ôte-le de ma vie et que j'en sois délivré. Merci de le faire gratuitement par pure bonté. Je reçois ce pardon maintenant et cette libération dans l'action de grâce. Et maintenant, me voici pour faire avec toi la volonté du Père. Mais en cela, ne suis-je pas souvent paralysé, moi aussi, au moins par moment? Merci de me donner des amis inconnus parfois, qui prient pour moi, portés par ces prières auxquelles je joins la mienne. Je compte sur ta puissance de guérison et de vie. Et puis, je reprends avec confiance mes tâches quotidiennes. Voici maintenant l'appel de Lévi. Chapitre 2, versets 13 à 17. Jésus regagna de nouveau le bord de la mer, tandis que tout le peuple affluait à lui et qu'il l'enseignait. En passant, il voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau du péage et il lui dit « Suis-moi ». Il se leva aussitôt et le suivit. Alors que Jésus était à table chez lui, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient aussi pris place avec lui et ses disciples, car nombreux étaient ceux qui le suivaient. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec des pêcheurs et des péagers, dirent aux disciples, « Et quoi ? Il mange avec les péagers et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les gens en santé qui ont besoin du médecin, mais ce sont les malades. » Je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu pour appeler les pécheurs. En dépit de la foule, Jésus distingue Lévi. Cet homme peut faire mieux que de percevoir des impôts. Il l'appelle donc et se l'attache comme disciple. Lévi d'ailleurs n'hésite pas. Il se lève aussitôt et suit Jésus. Il va même le recevoir chez lui pour un grand repas avec de nombreux invités afin de marquer le début de sa nouvelle vie. Les scribes sont scandalisés de voir Jésus et ses disciples manger avec des gens impurs, entre guillemets. En le faisant, ne se souille-t-il pas ? Comme si Jésus ne restait pas lui-même un avec le Père au milieu des hommes pécheurs. C'est pour eux d'ailleurs qu'il est venu comme sauveur et médecin, pour les sauver et pour les guérir. Il ne peut rien pour ceux qui se croient des propres justes. Et ce sont les plus malades qui ont le plus besoin de lui. Suis-je capable, moi, si Dieu me le demande, de quitter un emploi lucratif, une situation enviable dans l'opinion du grand nombre, pour mieux servir mon maître et mes frères et sœurs? Jésus est venu pour sauver ceux que les justes abandonneraient comme perdus, indignes d'être aimés et aidés. Est-ce que j'aime assez pour m'en préoccuper avec Dieu leur Père comme le mien? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce qu'à l'occasion je leur tends une main secourable et leur parle avec affection, sans faire comme eux, bien sûr, mais sans me poser en exemple non plus. Prions. Ô Jésus, maître sans préjugés, toi qui n'as jamais méprisé personne, ni rejeté aucun homme, élargis mon cœur à la mesure du tien, et puis dispose de moi à ton gré. Appelle-moi là où le Père me veut. Débarrasse-moi de mon esprit de critique malveillante et négative. Donne-moi un esprit de compréhension et de charité, qu'avec toi je me sente le frère de tout homme pour aimer et pour l'aider. Amen. Chers amis, quand et comment devons-nous jeûner? Chapitre 2, versets 18 à 22. Les disciples de Jean et les pharisiens observaient un jeûne. On vient donc dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils alors que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit, « Les amis de lépreux et les amis de l'époux, peuvent-ils jeûner ?» Je répète, Jésus leur a répondu, « Les amis de l'époux, vous l'avez compris, les fils, ce sont les fils de la chambre nuptiale. Tous ceux qui partagent la joie de l'époux, c'est ça que veut dire les amis de l'époux, peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors, à ce moment-là, ils jeûneront. Personne ne coud une pièce d'étoffe non foulée sur un vieil habit. Autrement, la pièce neuve emporterait une partie du vieil habit et la déchirure serait pire. Personne non plus ne verse un vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin ferait éclater les outres et il serait perdu aussi bien que les outres. Mais à vin nouveau, outre neuve, oui, le jeûne véritable, authentique, suit tout naturellement le rythme de la vie et s'articule à ses épreuves et à ses joies. Il s'impose à certains moments où l'on y est porté par les circonstances. À d'autres moments, il serait par exemple déplacé. Pratiquer sans appel de l'âme et du cœur, uniquement par devoir et surtout par calcul, pour s'assurer par exemple certains mérites, dans ce cas-là, le jeûne perd toute véritable signification religieuse et toute efficacité spirituelle. Il se dégrade jusqu'à devenir une des multiples pratiques du formalisme pieux, d'autant moins efficace quand il s'agit pour l'homme de vivre et de s'épanouir, qu'il est plus scrupuleux et plus appliqué. En tout, Jésus ramène donc l'homme à la vérité et à la sincérité. Il dénonce l'hypocrisie et les faux semblants. Il dénonce tout ce que on affiche sans l'éprouver réellement. Il veut la simplicité et la transparence de l'être qui répond à sa véritable nature, qui est une nature saine et qui a la vie. Ce qu'on peut plus ou moins réussir avec l'homme d'ailleurs, pendant un temps du moins, on ne saurait le réussir avec Dieu. C'est donc en vain que l'on essayera de consolider avec l'évangile qu'apporte Jésus une vieille vie qui est hostile à la Sainte Parole. Le résultat ne pourrait être à la longue qu'un désastre moral. On se trouverait divisé contre soi-même, écartelé dans son fort intérieur, spirituellement déchiré et totalement impuissant. Chers amis, pour parvenir à la nécessaire unification de la conscience qui conditionne toute paix véritable, il faut donc du neuf et du solide, non pas du rapiécé et du vétuste. Jésus ne vient pas colmater des fissures ou des trous et réparer des brèches avec l'esprit qu'il apporte au monde. Il ne se contente pas d'améliorer simplement une nature détériorée et de ranimer par des piqûres une vieille religion sclérosée. Il vient pour accomplir la loi et les prophètes en reliant organiquement, pour ainsi dire, en prise directe, la vie de l'homme à celle de Dieu, pour que l'esprit qui doit inspirer, qui doit tout inspirer, puisse passer sans faire de dégâts. Il s'agit donc, en somme, de jeter le vieil habit pour un habit neuf, et les vieilles outres pour les outres neuves. Prions. Devant toi, Seigneur Jésus-Christ, je veux être vrai et le demeurer toujours. Affranchis-moi du formalisme qui me guette pour me rassurer et pour tromper les autres. Et puis, habille-moi de neuf, que tout ce qui en moi ne tend pas la main à Dieu et n'accueille pas son esprit, disparaisse pour être remplacé. J'accepte de me dépouiller de mes vieilles défroques, même honorables et pieuses. Je veux retrouver en toi et recevoir du Père ma nature originelle comme une outre neuve qui supportera le vin nouveau de ton évangile. Amen. Nous avons maintenant les Juifs et le sabbat au chapitre 2, verset 23 et le chapitre 3, verset 6. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé et ses disciples, tout en marchant, car ils avaient faim, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Vois donc, pourquoi font-ils le jour du sabbat, ce qui n'est pas permis ?» Il leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que a fait David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il avait faim, ainsi que ses compagnons, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition que seuls les prêtres ont le droit de manger, et comment il en donna même à ceux qui étaient avec lui ? Et il ajouta, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ou si le Fils de l'homme est-il maître même du sabbat ? Chapitre 3. Une autre fois, Jésus entra dans une synagogue où se trouvait un homme qui avait une main desséchée. On l'épiait pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat, afin de l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi là, au milieu. » Il dit ensuite aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une âme ou de la faire périr ?» Mais ils ne soufflèrent mot. Alors Jésus, promenant sur eux un regard de colère, affligé qu'il était de l'endurcissement de leur cœur, dit à l'homme, « Étends ta main !» Il l'étendit, et sa main redevint saine. Alors les pharisiens sortirent et se concertèrent aussitôt avec les Héroldiens sur le moyen de le faire périr. Le sabbat qui devait libérer l'Israélite un jour sur sept des besoins quotidiens ordinaires, afin qu'il eût le loisir ce jour-là d'être plus complètement à son Dieu et à ses frères et sœurs, était devenu l'occasion d'un avertissement plus grand encore que celui des autres jours. Les interdictions de toutes sortes avaient été multipliées. Quand l'homme commence à enfermer l'Esprit Saint dans la geôle de la lettre, tout est à redouter. L'air pur et la lumière s'en vont bien sûr, mais aussi la sainte et glorieuse liberté de mouvement et d'action qui caractérise la vie des enfants de Dieu. Le Fils est venu libérer les fils qui sont emprisonnés. Il ouvre la porte de celle de cette geôle qui était devenue le sabbat. Et ce jour redevint un jour de grâce, c'est-à-dire le jour par excellence de l'Esprit-Saint et de son libre rayonnement d'amour. Dieu est amour, en effet, et le jour où l'homme est invité à suspendre tous ses travaux ordinaires, en les laissant de côté un moment, pour donner à l'âme l'occasion de se ressaisir en Dieu, cela doit être par excellence le jour de l'amour généreux et agissant. Chers amis, pour nous chrétiens, à qui la sagesse et l'amour du Père ont donné par la résurrection de Jésus et par l'effusion du Saint-Esprit un nouveau jour de repos, d'adoration et de prière, le jour du Seigneur ou le dimanche, ce jour-là doit être non seulement un jour consacré au culte public et au repos nécessaire du corps, mais aussi un jour d'action désintéressée et bonne, s'exerçant à la seule gloire de Dieu et surtout pour le bien des autres. Prions maintenant. Merci Père de nous ménager un temps de repos chaque semaine, d'avoir mis à part un jour sur sept pour que nous puissions ce jour-là échapper à l'engrenage des obligations ordinaires pour te consacrer plus de temps ainsi qu'à nos frères et sœurs. Père de toute vie, libère-nous du formalisme stérile, préserve-nous de la lettre qui tue, mais qu'en même temps, nous soyons amenés à une obéissance plus vraie et plus féconde. Oui, Père, libère-nous dans la communion de ton Fils, mais en nous libérant, rends-nous dignes de cette liberté. Fais qu'elle ne nous perde pas, mais qu'elle soit pour nous l'occasion de rendre service, de soulager les autres s'ils souffrent, et de mettre un peu de joie dans leur vie. Oui, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, le maître du sabbat. Amen. Maintenant, nous arrivons à l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. Là, on nous montre l'enthousiasme populaire. Jésus se retira avec ses disciples du côté de la mer, et une grande foule venue de la Galilée le suivit, et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et au-delà du Jordan, et des environs de Tyr et de Sidon, une foule nombreuse, ayant appris ce qu'il faisait, vint donc à lui. Il dit alors à ses disciples de lui amener une barque. Pourquoi ? Mais à cause de la foule énorme, pour qu'elle ne l'écrase pas. Il en avait guéri beaucoup, en effet, si bien que tous ceux qui étaient affligés de maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, tombaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur intimait avec force de ne pas le faire connaître. Oui, la foule des curieux, des malades et des infirmes assiège maintenant Jésus. Ce qui se passe est tellement inattendu, tellement nouveau. Jamais les scribes n'en ont fait autant. Jésus avait bien cherché une retraite du côté de la mer, mais on l'avait suivi. Et c'est de partout qu'ensuite les gens étaient venus en masse pour ne pas être gênés ou même écrasés. Jésus s'était fait amener une barque, car on se jetait sur lui pour le toucher, et les démoniaques tombaient à ses pieds et le proclamaient fils de Dieu. Or, il ne fallait pas cela, car son heure n'était pas encore venue. Chers amis, mon témoignage est-il toujours empreint de sagesse aussi bien que de chaleur? Ai-je le sens de l'à-propos? Le Maître peut-il me faire confiance? Ma vie elle-même est-elle mon témoignage essentiel, permanent et irrécusable? Cette vie nouvelle m'est-elle devenue naturelle? Y suis-je à l'aise dans une joie paisible et forte qui donne une impression d'équilibre et d'harmonie en même temps que de ferveur? Prions. Seigneur, tu sais que je veux mettre au service des autres ce que tu as fait pour moi. Je voudrais surtout ne pas les heurter et ne pas te discréditer par une attitude maladroite ou des paroles déplacées. Donne au témoignage de ma vie ce caractère de vérité et de simplicité en même temps que d'amour et de joie qui émanait toujours de ta propre vie, et qu'à toi en revienne toute la gloire, uniquement à toi. Oui, Seigneur, comme au Père, ainsi qu'au Saint-Esprit. Amen. Au chapitre 3, versets 13 à 19, nous avons le choix des 12. Chapitre 3, versets 13 à 19. Il est dit que Jésus gravit ensuite la montagne, appelant à le suivre ceux qui voulaient, ceux qu'il voulait lui. Et ils sont venus à lui. Il en établit 12 qui seraient donc avec lui, qu'il enverrait pour prêcher et qui auraient le pouvoir de chasser les démons. Simon, à qui il donna le nom de Pierre, ensuite Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Ensuite André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, c'est-à-dire celui qui le livrera. Après un temps d'intense activité publique, Jésus songe à l'avenir et veut donc établir et former ceux qui auront à œuvrer, oui, à travailler pour le royaume. Il appelle donc qui il veut à le suivre dans la solitude d'une montagne proche. Il fait ainsi retraite avec eux et il choisit les 12 afin de les établir et de les former pour le ministère de la parole et de la guérison. Jésus nous montre la nécessité, quand il s'agit de choisir et d'établir des hommes pour une mission spéciale, de les prendre à part et de les instruire. Il s'agit ici de retraite fermée. Elle ne concerne que les appelés, oui, ceux qui sont déjà préparés intérieurement, les prédestinés, prédestinés à un service qui exigera d'eux ce que les autres ne sauraient jamais donner, à chacun ce qu'il peut faire. L'Église a raison de continuer la formule de son Seigneur et de ménager à ses ouvriers des temps de retraite, d'instruction, de formation et de prière. Mais c'est toujours le Maître lui-même qui appelle qui il veut pour une charge précise. Les intermédiaires humains restent secondaires, pour important que soit leur rôle. Prions. Oui, merci Seigneur, de prendre à part tous ceux que tu appelles. Tu les soustrais pour un temps, ne fût-ce que quelques jours, au remous et à la fièvre du monde. Dans ce silence, tu les découvres à eux-mêmes. Tu leur montres comment ils peuvent servir. Tu leur donnes l'Esprit Saint qui vient du Père. Tu les enseignes et tu les qualifies. Tu les affranchis de leur timidité ou de leur présomption et tu les envoies avec ta puissance pour qu'ils soient les témoins de ta vie dans le monde. Amen. Maintenant, dans Saint Marc chapitre 3, versets 20 à 35, nous voyons la mère et les frères de Jésus. Une fausse accusation. Nous devons absolument éviter cela, car une fausse accusation pourrait être le péché contre le Saint-Esprit. Chapitre 3, versets 20 à 35. Jésus revint donc ensuite à la maison, et de nouveau la foule s'y rassembla, en sorte qu'il n'arrivait même plus à manger. Les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car, disait-il, il est un peu hors de sens. De leur côté, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient qu'il était même possédé de Belzébuth et qu'il chassait les démons par le prince des démons. Les ayant alors appelés, il leur dit en parabole, « Voyons, comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut se maintenir. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne saurait subsister. Si donc Satan s'est dressé contre lui-même et s'est divisé, il ne saurait tenir. C'en est donc fait de lui. Donc, nul ne peut pénétrer dans la maison d'un homme robuste et piller ses biens, s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme. Alors seulement, il mettra sa maison à sac. En vérité, je vous le dis, tout sera pardonné aux fils des hommes, tels que leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Cela parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Alors arrivèrent sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, le firent appeler. La foule était assise autour de lui quand on lui dit, « Voilà que ta mère et tes frères sont là, ils sont là dehors, qui te cherchent. » Il leur répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis promenant ses regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il a dit, « Voici ma mère et mes frères. C'est quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur, ainsi que ma mère. » Décidément, il suffit que Jésus paraisse pour que tout le monde soit en émoi. De retour à Capernaum, il est donc assailli au point de ne même plus avoir le temps de manger. Tous, d'ailleurs, ne sont pas ses amis. Sa popularité porte ombrage ainsi aux chefs qui sont attirés du peuple. Des scribes venus de Jérusalem, par exemple, attribuent ces miracles qu'ils ne peuvent nier. Ils les attribuent tout de même à Belzébuth, le prince des démons. L'esprit qui le fait parler et agir vient non de Dieu, mais de Satan, c'est ce qu'ils disent. Avec un à propos et une logique admirable, Jésus confond ses adversaires et il leur dit comment Satan pourrait-il se tourner contre lui-même sans se détruire. L'affirmation du verset 27, cela signifie sans doute que Jésus lie Satan par la puissance du Saint-Esprit, qui est la puissance même de Dieu. C'est pourquoi il peut piller la maison de Satan en chassant les esprits impurs, en guérissant les malades et en pardonnant, en remettant ou en ôtant les péchés, en présence de Jésus, eh bien Satan n'est plus qu'un vaincu. Il est comme lié, paralysé. Et ses victimes sont libérées maintenant. Gloire soit rendue à Dieu. Mais malheur à qui ce qui vient de Satan, il l'attribue à Dieu en disant que ça vient de Dieu. Celui-là pêche non seulement contre toute loi du monde spirituel, mais il pêche contre la nature même de Dieu. Il pêche à la source, pour ainsi dire, et oblige la vie à se dresser contre lui pour le condamner. Il en déclenche donc les mécanismes de défense les plus secrets et les plus redoutables. Car l'homme ne saurait s'attaquer à la nature même des choses et changer la constitution de l'univers. Il est fait pour vivre librement de Dieu par l'Esprit Saint et peut s'égarer. L'homme peut se tromper, il peut transgresser la loi divine, ou même se révolter et blasphémer sans pour autant se perdre irrémédiablement. Mais son pardon l'attend dans le cœur de Dieu. Il peut donc à tout moment l'y aller chercher par le repentir. Il peut aller chercher Dieu par le repentir. Alors tout rentre dans l'ordre pour lui. Mais par contre, si c'est à Dieu lui-même qu'il s'en prend, s'il veut en faire autre chose que ce qu'il est, et s'il veut non plus seulement transgresser la loi, mais même la changer, peut-être la remplacer par une autre loi, et s'ériger ainsi lui-même en Dieu, alors là, il s'exile de la vie elle-même, et il se perd irrémédiablement, car il pêche, vous l'avez compris, contre le Saint-Esprit. Mais tout cela, tout ce bruit, tous ces clameurs, tout cet engouement populaire et cet antagonisme des gens habituellement écoutés, oui, tout cela inquiète et trouble la famille de Jésus, sa mère surtout, mais aussi ses frères et sœurs. Il parle donc au verset 21 pour ramener Jésus. Ils sont donc tous partis, c'est cela, ses disciples sont partis pour ramener Jésus à Nazareth et de l'obliger avec un peu plus de prudence et plus de modération. Mais Jésus n'a pas à recevoir de conseils des hommes, même des mieux intentionnés, même de sa famille elle-même ou même de ses disciples. Il voit tout dans la lumière de Dieu, et dans cette lumière se nouent les liens véritables, non plus ceux du sang et de la chair, mais ceux de l'esprit et de la vie dans ce qu'elle a d'éternel. Quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur, qui est ma mère. En d'autres termes, c'est celui ou celle qui accepte de vivre comme moi dans l'obéissance filiale, sans réserve quand il s'agit de Dieu et dans l'amour fraternel inégal quand il s'agit des hommes. Jésus ne touche donc pas aux liens naturels du sang, mais il les situe à leur véritable place, qui est secondaire au regard des liens de l'esprit. C'est la source commune d'éternelle vie pour tous les hommes. Ces liens du sang, au demeurant, deviennent donc ce qu'ils doivent être dans l'économie terrestre actuelle, quand ils se doublent de ceux de l'Esprit Saint. Prions pour terminer cette étude d'aujourd'hui. Seigneur, ouvre mes yeux, Père des Lumières, afin qu'il contemple en Jésus l'ordre nouveau et définitif du royaume. Que je ne sois pas de ceux qui s'accrochent à des façades, on peut dire, croulantes, mais que j'ose, avec le Seigneur de la vie, aller au-devant de l'inconnu, où tu nous découvres les splendeurs de ton royaume. Oui, Père, introduis-moi avec Jésus dans la famille de tes enfants, de ceux qui, conduits par l'Esprit Saint, révèlent au monde la vie glorieuse et libre de tes fils et de tes filles sur la terre. Moi, en lui, en Dieu le Père, et lui, en moi, et nous, tous, en toi, Père, et Jésus-Christ, pour qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Et chers amis, maintenant, je vais vous mettre un ou deux chants d'un assez lointain passé, 1962. Ce sont quelques chants, peut-être en allemand, puisque je suis de langue allemande, mais qui peuvent vous donner encore quelque chose dans votre âme et esprit. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse à tout instant. À bientôt, à demain matin, Dieu voulant.
Thank you.